Podcast RTBF Sport. Complètement foot.
On a beaucoup parlé d'un duel, d'un mano à mano, entre évidemment les deux clubs bruxellois. On se retrouve avec un carré d'as en 4 points. Le titre va se jouer finalement entre 4 équipes, la magie ou les défauts des playoffs, c'est selon les points de vue. PJ, votre avis sur, et comme ça on enchaîne dans la suite de cette Champions Playoff, cette victoire du Racing Genk hier contre le Sporting Anderlecht, 2-1, votre avis sur cette rencontre, PJ?
Oui, c'était très mérité pour moi, malgré le fait que pour moi, le penalty, c'est logique, c'est correct, c'est cohérent vu de la saison. Mais moi, j'ai pas trop aimé le penalty, pour être honnête. Mais à la fin, je pense que la victoire était très, très méritée pour Genk. La différence était grande. Et je pense que Anderlecht, mais je l'ai déjà dit dans le passé aussi, ils doivent lever leur niveau pour pouvoir être champion dans ces playoffs. Surtout maintenant, tu as 4 équipes qui sont capables de devenir champion. Bon, si tu veux être champion, il va falloir faire une série ou élever ton niveau, en tout cas. Donc, non, pour moi, la victoire était méritée.
Peter Yann Kalkoud, journaliste Newsblatt, votre avis sur cette phase précisément, autre phase dont on va parler, reparler, on a déjà parlé du côté anderlechtois des supporters, des supportrices anderlechtoises, faute de bras, de mains, de sardella dans le rectangle, y avait-il pénalty Alexandre Boucaud?
Bah oui, si on prend la phase et le règlement tel qu'ils existent aujourd'hui, c'est une décision correcte. Dans le sens où Sardella a son bras gauche vraiment collé sur sa poitrine. Donc s'il y avait eu un contact uniquement avec ce bras-là, le VAR serait intervenu à coup sûr pour annuler. Mais il a son bras droit qui est écarté et on voit bien avec la caméra arrière-gaule que la balle va frapper sa main et sa main, due à l'impact, va partir en arrière. Et là, à ce moment-là, on a un ballon qui va droit au but avec un bras qui est écarté et qui est plus collé au corps. Donc, par contre, je suis aussi convaincu que l'arbitre a sifflé au feeling, hein, parce que c'est très difficile, ça va très vite, et je pense que comme la main est derrière le corps, c'est très compliqué à voir, donc il a sifflé au feeling, mais voilà, parfois vous devez avoir de la chance, et son feeling lui a donné raison sur ce coup-là. Donc, voilà, et je peux accepter les commentaires, et je pense que je suis sur du velours après le commentaire de Peter Yann, qui pense aussi à un pénalty, même si on n'aime pas ça. Mais ok, les règlements sont faits, et j'aime bien aussi le mot cohérence, uniformité, c'est ça qu'on veut. Et donc voilà, il faut que si ça se passe la semaine prochaine, ben on prenne la même décision.
Clément Tamon, votre avis sur cette phase?
Pour moi aussi, c'est une faute de main, et je me réfère surtout au feeling arbitre. J'ai eu le sentiment qu'il a décidé extrêmement rapidement la décision parce qu'il était très sûr de lui. Il avait analysé. Quand on regarde bien la situation, il est logiquement dans la ligne de la situation de main et il n'hésite pas une seule seconde. Donc à un moment donné, quand tu n'hésites pas une seule seconde aussi, qu'il a trouvé juste que c'était effectivement une faute de main, je vais pas dire délibérée, mais c'est le règlement, et moi aussi j'ai du mal avec ça, mais ça fait partie aujourd'hui des règles du jeu, et étant donné, comme l'a dit Alex, que son bras, donc c'est son bras droit qui, en tout cas le ballon vient heurter sa main, et on a le sentiment qu'il est un peu plus décollé que le reste du corps, mais
ça augmente la surface corporelle, la surface, tout simplement.
Et l'aspect délibéré, voilà, c'est la surface corporelle qui augmente, et il prend pas de carte jaune comme ça aurait été le cas jusqu'à il y a un ou deux ans passés, où on disait un shot vers le but c'est jaune, un centre, une main sur un centre, c'est pas de carte, c'est terminé, il faut qu'il y ait une volonté de me faire une main d'anti-jeu pour prendre la jaune. C'est pas le cas ici, on est d'accord. Mais il agrandit sa surface corporelle. Et donc, voilà, c'est une faute. Sans carte jaune, c'est pénalty.
Monsieur Lardo, qui était aussi sifflé pour ce match, aurait sans doute dû donner un carton jaune aussi à Jan Vertonghen pour cette petite faute à la limite, voire en dehors du terrain, sur le côté.
Je pense, oui. Parce que là, on est dehors du terrain et on peut provoquer avec ça beaucoup d'irritation chez l'adversaire. C'est une faute de frustration. Il n'y a pas de violence qui justifie une carte rouge, évidemment. Mais c'est une carte jaune, pour moi, claire, qui aurait dû être donnée.
Complètement foot, le débriefing donc de cette rencontre Genk-Anderlecht avec Alexandre Boucaud, notre arbitre RTBF Sport, Clément Tamon, qui retourne chez PJ.
Oui, dans ce cas-là, pourquoi il ne la donne pas alors? Est-ce que tu as, par expérience, le sentiment que quand même certains joueurs, de par leur stature, sont plus ou moins protégés, ou en tout cas passent à travers certaines gouttes que d'autres joueurs ne peuvent pas traverser.
Bah, je pense que si on prend, et j'ai envie de dire malheureusement, si on prend la situation après championnat, il y a des noms qui reviennent régulièrement. On a Vertonghen qui revient régulièrement, on a Vincent Janssen qui revient régulièrement sur la table. Voilà, donc, mais ça ne devrait pas jouer. Au contraire, ce serait une manière aussi de dire bon ben voilà, j'ose, j'ai pas peur et tout le monde est jugé de la même manière. Et voilà, hier typiquement, ça aurait dû être puni.
Oui. Racing Genk donc qui a battu le Sporting Anderlecht hier 2-1. On se retrouve donc à 4 points entre les 4 premiers. PJ, que penser de ces derniers résultats? On va enchaîner donc tout de suite avec une nouvelle journée de play-off cette semaine, en Champions Play-off entre autres. Du côté Anderlechtois, je voulais vous entendre, PJ. Brian Riemer a clairement voilà dit que pour lui c'était pas penalty, mais il a plutôt mis en cause la performance de ses joueurs, surtout sur la première demi-heure. Votre avis?
Il a bien raison de le faire et il aurait dû le faire beaucoup plus avant. C'est depuis des semaines que c'est pas assez en Anderlecht. Bon, ils ont eu des moments bien, des bons moments pendant les playoffs, mais en général c'était pas assez. Et moi je trouve par exemple que Dolberg en général il fait pas des bons matchs, il peut toujours jouer. Dreyer il fait à nouveau un superbe but et je vais pas l'attaquer parce que ses statistiques sont phénoménales, mais en général, je trouve qu'il apporte pas beaucoup dans l'entrejeu. Il y a d'autres joueurs aussi qui ont des hauts et des bas, et plus de bas que des hauts. Donc, je pense vraiment que Anderlecht doit, comme j'ai dit, doit relever leur niveau pour pouvoir devenir champion, parce que tu dois pas penser que tu vas prendre des points ou continuer à prendre des points sans être top si tu vois comment les autres jouent pour le moment dans les playoffs. Même Union, c'est pas hyper mauvais, par exemple. Donc, je pense qu'Anderlecht va devoir lever son niveau.
Peter-Yann Kalkoun, journaliste de Newsblatt, Alexandre Boucaud. J'adore passer la soirée à regarder un classico Barça-Real avec Alexandre Boucaud, parce que dès que je lève un œil, il me fait non. Donc voilà, bientôt une heure de jeu, toujours un but partout. Clément Tamon est là aussi, évidemment. Courte interview, extrait d'interview de Mario Stoïkens à l'issue de ce match et cette défaite d'Anderlecht, donc à Genk hier, on l'écoute.
Dans les playoffs, les deux matchs qu'on a joués à l'extérieur, comme aujourd'hui, on n'a pas su gagner. La dernière semaine contre Bruges, on savait c'était juste, on s'est fait manger au niveau de l'intensité. Aujourd'hui, je pense que, comme j'ai dit, en première mi-temps, on loupe notre première mi-temps, mais je crois en deuxième mi-temps, on commence un peu à revenir, on les met un peu sous pression. C'est pas notre meilleur jeu, mais tu vois qu'avec un peu plus d'intensité, un peu plus de pression vers l'avant, que t'as des occasions, on met un ballon sur les poteaux, on a un corner de Fédé qui la met juste au-dessus, et puis Dreyer aussi met le but qui fait le 1-1. Et comme j'ai dit, on a loupé cette première mi-temps et c'est très dur de revenir contre une bonne équipe dans ces playoffs.
Le Sporting Anderlecht à domicile ou à l'extérieur, ce n'est pas la même chose. Deux victoires sur les quatre à domicile. Donc voilà, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite dans cette Champions League. Et chaque fois à la maison pour les trois points pris.
Nos podcasts sont disponibles sur rtbf.be/.
Jouer face à ses supporters, évidemment, et l'importance de jouer à domicile. Mais comment l'expliquer dans le déroulement de ces quatre premières journées de Champions Playoff, selon vous, PJ?
Pour une fois, j'ai pas d'explication, en fait. Parce que je trouve dans les playoffs, les différences sont si petites que jouer à domicile ou à l'extérieur, ça ne devrait pas changer beaucoup. Bon, c'est toujours un avantage si toi t'es supporté devant toi, mais pour dire que Anderlecht ne peut pas aller gagner à Genk ou Anderlecht ne peut pas aller gagner à Antwerp par exemple maintenant, bon, je pense que ça devrait être possible si tu es à ton niveau qu'il faut.
Oui, parce que c'est plutôt pour les adversaires que ça fait la différence, Clément, parce qu'aller jouer à Genk, aller jouer au club de Bruges, les deux équipes qui sont en forme, évidemment, dans ces Champions Playoffs, c'est plutôt ça qui fait la différence que de jouer à domicile ou à l'extérieur, sans doute, Clément. Ou aucun avis là-dessus. Vous pouvez me dire, faux débat, on passe...
Non, mais je pense que c'est un faux débat, puisque quand on regarde le parcours d'Anderlecht sur la saison régulière à l'extérieur, ils sont deuxièmes, avec 27 points. Ils sont devant Genk, ils sont devant Bruges, donc... ils ont su gérer ce genre de situation et de parcours à l'extérieur. C'est jusqu'ici, oui, peut-être en termes de timing, ils affrontent à l'extérieur des équipes qui sont dans une forte dynamique. Genk, en ce moment, c'est très très fort. Très très fort, vraiment. PJ nous l'a dit tout à l'heure, la victoire est largement méritée. Il y a des joueurs qui sont en train de, je ne vais pas dire surperformer, parce qu'ils ont d'énormes qualités, mais ils arrivent à un niveau de performance qui correspond à leur qualité. El Ouadi, Aitelaj, Aitelaj, il sort de nulle part. Voilà, il fait.
Enfin, les mauvaises langues vous rappelleront qu'il sort d'Anderlecht, justement.
Ouais, ouais, enfin,
mais forcément.
Mais je veux dire, de par son parcours de cette saison, il a une dynamique incroyable. Ouais. El Kanous aussi, Galarza, c'est très très fort. Donc, c'est très costaud. Dans la production de jeu, c'est très dynamique. Il y a beaucoup de tempo, il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup de variété. Ça met beaucoup d'intensité, de transition. Je trouve ça très fort. Et puis, Vranken, j'ai parlé avec lui la semaine passée quand j'étais joué à Yongek. Et puis, il me parlait du fameux changement de système. J'ai été moi-même surpris qu'il l'ait changé de système parce que c'est logiquement quelqu'un qui reste sur ses principes. Et même lui a été plus ou moins surpris du changement et que ça ait fonctionné. Et ça fonctionne très bien, hein. Passer à 3 derrière et puis avec des pistons sur les côtés qui sont dans la verticalité hyper impressionnant, ça mène beaucoup de dangers. Tolu qui devant aussi commence à être imposant, à avoir de la qualité et puis à bien finir la situation. Je pense qu'ici, la double confrontation face au
voilà.
club de Bruges...
J'allais y venir, je vous laissais terminer.
...sera pour moi l'équipe qui sortira, je pense, ce vainqueur de cette double confrontation. S'ouvrira une grande, grande porte pour la route vers le titre.
Parce que domicile extérieur pour le débat Sporting Anderlecht, ce sera le Cercle de Bruges deux fois, d'abord à la maison et puis à l'extérieur. Et du côté du Racing de Genk, ben vous l'avez dit Clément, il y a cette double confrontation, d'abord au Club de Bruges et puis ensuite à domicile contre le Club de Bruges. Donc sans doute une semaine décisive dans la lutte pour le titre. Peter Yann, j'ai une dernière question pour vous, parce que j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux et on en a beaucoup parlé aussi du côté néerlandophone, j'en suis sûr. La petite danse de Wouter Franken, c'était quoi ça? C'était une imitation de Brian Riemer ou pas du tout?
Je me suis posé la question aussi. En tout cas, il a plus de rythme que moi. moi, je n'aurais pas pu le faire. Non, je pense qu'il était tout simplement tellement heureux qu'il a fêté. Et peut-être qu'il a voulu donner un petit pic, ça se dit comme ça en français,
ouais.
envers Brian Riemer. Mmh. Et tu peux le faire, je pense, dans les playoffs. C'était pas agressif, c'était juste pour
chambrer,
faire plaisir aux gens un petit peu. Voilà, donc je peux rigoler avec.
Pour ne manquer aucun podcast RTBF Sport, abonnez-vous. Nos podcasts sont disponibles sur rtbf.be/ovio ou via votre application podcast.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.